Quel est pour vous le verset le plus surprenant de la Bible? Je crois que tous on devrait être émerveillés, surpris par Jean 3,16, bien sûr. Où il est dit que Dieu a tant aimé chacun de nous. Le fait que Dieu puisse nous aimer, ça devrait nous surprendre. Amen. Un autre verset que je propose comme candidat, c'est le psaume 137,9. Qui dit « Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. » Waouh ! C'est dans la Bible. On priait pour l'équipe de l'Institut Emmaüs. Sébastien, qui était un des membres de cette équipe, m'avait raconté comment l'ennemi avait utilisé ce verset pour décourager un ami de considérer la foi chrétienne. Sébastien priait depuis longtemps pour cet ami. Il avait partagé sa foi, il témoignait. Pour son anniversaire, il lui a enfin offert une belle Bible avec plein d'explications. Elle lui avait conseillé de commencer à lire Jean, l'évangile de Jean, etc. Une semaine plus tard, quand il a retrouvé son ami lui a montré ce verset, il lui a dit « Tiens, voilà ta Bible. » Qu'est-ce que vous diriez si on vous disait « Pourquoi est-ce qu'il y a ce verset dans la Bible ?»« Heureux qui saisit ses enfants et qui les écrase, qui les fracasse sur un roc. » Bien sûr, quand on parle de la Bible, il ne faut jamais isoler les versets du texte, du contexte. Il faut connaître le contexte historique de l'histoire du peuple de Dieu. Sinon, le gouvernement pourrait interdire la publication de la Bible. En disant que c'est pire que la pédophilie, ça invite au meurtre des enfants. Aujourd'hui, nous allons voir un passage dans Deutéronome 7 qui, j'espère, va nous aider à mieux comprendre pourquoi on trouve de tels versets dans la Bible. Vous vous souvenez que nous sommes dans l'étude du sermon d'adieu de Moïse. Il va bientôt passer le bâton à Josué. Et il s'adresse au peuple d'Israël, à la génération suivante, celle qui a été libérée d'Égypte. Pour leur rappeler la loi et tous les préceptes de Dieu. Lisons à partir du verset 1 et nous commenterons au fur et à mesure. Chapitre 7, verset 1. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait venir dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession et qu'il aura chassé devant toi des nations nombreuses, les Hittites, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Yébousiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi, Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les voueras à l'interdit, tu ne concluras pas d'alliance avec elles et tu ne leur feras pas grâce. On voit donc que, en entrant en terre promise, ils allaient avoir affaire à sept nations. Bien sûr, je ne crois pas que ce soit par hasard. Le nombre 7, c'est le nombre de ce qui est complet dans la Bible. Ces sept nations représentent l'ensemble de toute l'opposition à Dieu et à son peuple. Alors, il y a les listes des nations. Il y a une remarque que le pape a faite il n'y a pas très longtemps. La terre promise était habitée par des habitants, par des peuplades païennes. Mais elle n'était promise qu'au seul peuple d'Israël. Et le pape a fait cette remarque surprenante. Il a dit « La terre d'Israël et Jérusalem sont des lieux saints, des lieux sacrés pour trois religions. » Le judaïsme, le christianisme et l'islam. Mais la terre n'est promise qu'aux juifs. C'est bon des fois de se le rappeler dans le contexte des actualités courantes. Et on peut remarquer qu'il y a souvent un déséquilibre dans les nouvelles qu'on a dans notre pays. Qui a tendance à être anti-israélien. Et aux États-Unis, c'est pro-israélien. La vérité se trouve dans la parole de Dieu. Il est dit, verset 2, « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les voueras à l'interdit. » Il n'est pas dit « si l'Éternel te les livre », mais « lorsque ». Il n'y a aucun doute sur l'issue finale. Dieu a promis de leur donner la terre promise. La seule question, c'est la question de temps. Quand est-ce que ce sera ? Lorsque l'Éternel, leur Dieu, allait leur livrer ces peuples païens, ils devaient, selon l'expression rendue par la Bible à la Colombe, les vouer à l'interdit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les vouer à l'interdit ? C'était les rendre totalement interdits, inutilisables, en les détruisant complètement. So that they were rendered useless. Je me souviens que mon père avait gardé, depuis la Deuxième Guerre mondiale, des gros pistolets. Il était dans l'armée, donc il avait accès à toutes ces choses. Et après son décès, ma mère s'est retrouvée avec ses énormes pistolets. Il y avait aussi les balles à côté. Et lorsque mon père était décédé, ma mère les avait mis dans un coin. Et quand mes enfants ont grandi, j'avais toujours peur qu'ils trouvent ces pistolets. Donc je voulais m'en débarrasser. Et comme c'était des belles armes, je me suis dit peut-être je vais pouvoir les vendre dans une armurerie. L'autre idée, c'était peut-être de les jeter dans l'eau. Mais il n'était pas question, comme on le verra, il n'est pas question, à la fin du chapitre 7, il n'est pas question de faire un profit sur ces choses-là. Quelque part, je devais vouer à l'interdit ces armes. Je devais les rendre inutilisables par personne. J'étais allé dans une armurerie et je m'étais dit que sans doute si je les vendais là, ces armes se retrouveraient entre les mains de gangsters quelque part. Donc je suis allé finalement signer des papiers au commissariat de police pour que ces armes soient détruites. C'est un peu de la même façon, Dieu disait à ces gens, ces choses qui sont ces peuples et leurs richesses, leurs ressources, je ne veux pas que vous les utilisiez. Détruisez-les complètement. On va y revenir. Dieu va leur livrer ses peuples. Mais eux ont leur part à jouer, ils doivent détruire les peuples. Il en va de même pour nous chrétiens. Le Seigneur me donne la victoire. Si je choisis de participer à ce qu'il fait pour me délivrer. Nous savons par Paul dans Romains que notre vieille nature a été crucifiée afin que notre corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Paul nous exhorte à nous considérer comme morts au péché. Et vivant pour Dieu en Christ Jésus. Notre vieille nature est crucifiée, mais en nous il reste cette chair qui, elle, est rendue impuissante, paralysée par la victoire de Christ. C'est-à-dire que maintenant nous avons la puissance de dire non au péché. Dieu a rempli la victoire, mais c'est à nous de dire non. On dit que souvent que le salut comporte trois phases. Il y a une déclaration. Deuxième, c'est une transformation. Et la troisième, c'est une glorification. La déclaration, ce qu'on appelle des fois la justification, par un mot théologique, ça veut simplement dire que Dieu nous accepte, nous déclare acceptables. Il ne regarde pas notre péché parce que nous avons accepté Christ. Nous sommes au bénéfice de la justice de Christ. Ça, c'est une chose immédiate. Dès que nous acceptons Christ, nous sommes déclarés justes. Et puis ensuite, Dieu ne reste pas là. Il nous déclare justes, mais il va nous transformer, il va nous rendre justes. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Nous sommes de plus en plus mis à part pour lui. Nous sommes libérés de la puissance du péché. Nous avons été, par la déclaration, déclarés libérés de la punition du péché. nous n'avons plus à prendre la punition de la croix pour nos péchés, mais Dieu nous libère de plus en plus de la puissance du péché. Et puis la glorification, ce sera de l'autre côté de l'éternité. Et là, il est dit qu'on sera libéré jusqu'à la présence du péché. Ça, ce sera éternel. La transformation, elle est progressive. Ça serait bien si c'était immédiat, n'est-ce pas? Dieu, dans sa souveraineté, a choisi ce procédé. Nous en sommes sûrs. Ces raisons. Ce serait peut-être dur pour les autres de voir des gens parfaits d'un seul coup. Mais une chose est sûre, c'est que si vous êtes chrétien, vous avez le pouvoir, j'ai le pouvoir de dire non à la tentation, à la dépression, à la séduction. Paul nous expliquait dans 1 Corinthiens 10, 13 « Aucune tentation ne nous est survenue qui ne soit humaine. » Dieu est fidèle, il ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il nous donne aussi le moyen d'en sortir pour que nous puissions la supporter. Nous avons la puissance, le pouvoir de dire non au péché, mais le choix nous appartient toujours. Il leur dit ensuite, tu ne contracteras verset 3 pas de mariage avec ces peuples, tu ne donneras pas ta fille à leur fils et tu ne te prendras pas leur fille pour ton fils. Car ils écarteraient de moi tes fils, qui rendraient un culte à d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Ils te détruiraient promptement. Autrement dit, pas de mariage mixte. Bien sûr, mixte pas au niveau racial, mais au niveau spirituel. Pas de mariage pour le chrétien avec le non-chrétien. Pas de mariage avec le chrétien pour le chrétien avec le non-chrétien qui, en disant « Oui, mais je pense qu'il est en bonne voie ». Paul nous dit aussi dans 2 Corinthiens 6, 14, ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? 6, 14. Pas mélanger la lumière avec les ténèbres. On ne doit pas se mélanger, surtout dans le mariage, dans la formation d'une famille, entre des chrétiens et des non-chrétiens. Et verset 4 explique, parce que ça va écarter de moi tes fils, ça va faire un obstacle, ça va retarder, ça va reculer la croissance spirituelle des fils d'Israël. Verset 5, voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs stèles, vous abattrez leurs poteaux d'Achéra et vous brûlerez au feu leurs statues. Et ça nous rappelle un peu la réaction jalouse de Jésus pour son Père, pour le temple qui devait être un endroit de prière et qui était devenu un lieu de commerce. Nous avons revu la semaine dernière les 10 commandements. Un seul Dieu, croire à un seul Dieu. Deuxièmement, pas d'idole. Destruction des idoles. Petits enfants, gardez-vous des idoles, comme dirait Jean. Les idoles dans notre vie. Quelles sont-elles? David disait, les idoles des nations sont de l'argent et de l'or, œuvre de la main des hommes. C'est le psaume 135. Elles ont une bouche, elles ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais elles ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais elles n'écoutent pas. Elles n'ont pas de soupe dans leur bouche. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Les idoles modernes, c'est tout ce qui prend la place, qui doit revenir à Dieu. Dieu veut que nous détruisions les idoles. Nous en avons souvent parlé. Ça peut être la recherche de l'argent, du plaisir, de la gloire. Il y a même des choses qui vont voler du temps à Dieu. Ça peut être de bonnes choses, ça peut être des activités sportives. Mais si elles nous empêchent d'avoir une relation personnelle avec Dieu, alors elles sont des idoles. La télévision peut être une idole. La télévision qui peut amener des images, des représentations de choses qui sont en abomination devant Dieu. Un pasteur avait remarqué qu'en Autriche, où se trouvent Françoise Rémy et Romain, il y a une marque d'antenne de satellite. Et c'est marqué dessus satellite antenna. Mais les trois premières, les caractères du début sont plus gros que les autres. Et en fait, sur toutes les paraboles de réception de télé à Millstatt, on peut lire Satan. Satellite antenna. S-A-T-A-N. Les vendeurs ont probablement pas fait attention. Ils ont trouvé que ça sonnait bien. Le plus triste, c'est que ça sonne juste. Pourquoi détruire ces peuplades? Pourquoi détruire leurs idoles? Verset 6, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne en propre parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Le mot saint, encore une fois, ça ne veut pas dire supérieur spirituellement. Ça veut simplement dire séparé, mis à l'écart, mis à part pour Dieu. C'est le grand principe de séparation qu'on trouve dans toute la Bible. Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Il a séparé la terre de la mer. Il veut séparer son peuple de ceux qui ne sont pas son peuple. Pierre, dans 1 Pierre 2,9, a dit: vous êtes par contre une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. C'est la même idée, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il nous a séparés du reste des autres. Et on peut se dire, il avait raison de me séparer des autres parce que je vaux bien mieux que les autres. Mais le verset 7, parlant du peuple d'Israël, dit: ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Autant pour l'orgueil ici. Rien d'intrinsèquement spécial en eux-mêmes, rien d'intrinsèquement spécial en nous-mêmes. On sait que Dieu a tendance à s'incliner vers les faibles, de préférence aux forts, parce qu'il peut être glorifié par ce qu'il fait avec les faibles. Et donc, ce n'est pas parce que vous êtes spécial, mais verset 8, parce que l'Éternel vous aime. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir à main forte, vous a libéré de la maison de servitude, de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Simplement cet amour non mérité, la grâce, qui est la raison de cette séparation. Et la fidélité de Dieu à ses promesses. Et l'application, c'est que pour nous, chrétiens, c'est exactement la même chose. Il ne m'a pas aimé à cause de mes performances, à cause de la beauté de mon caractère, à cause de ma beauté physique. Il m'a choisi, il vous a choisi, parce qu'il a décidé de vous aimer. Est-ce que vous êtes convaincu qu'il est décidé à vous aimer? On peut résumer ces quelques versets en disant: Dieu les a choisis parce qu'il les aime. Point final. Alors si vous dites ça à votre voisin de palier ou à votre collègue de travail, la personne va dire: mais je trouve que c'est pas juste ça. C'est totalement arbitraire. Et pourtant, on peut leur faire remarquer qu'ils, eux-mêmes, ils aiment bien pouvoir choisir leurs amis. Ils refusent à Dieu un droit qu'ils revendiquent. On peut leur dire: si Dieu choisit de ne pas s'associer avec certaines personnes, qui êtes-vous pour trouver qu'il est injuste et le juger ? Le pasteur Chuck Smith a imaginé un petit dialogue imaginaire entre un croyant et un non-croyant. Le non-croyant qui, est, qui trouve vraiment injuste, qui est en colère contre Dieu, de choisir ainsi de la sorte. Le non-croyant dit, je ne crois pas qu'il m'ait choisi. Et Chuck dit, pourquoi vous pensez cela? Ben, je ne suis pas chrétien. Ah oui, et pourquoi vous n'êtes pas chrétien? Oh, je ne sais pas, je n'ai jamais vu le besoin de le devenir. Voulez-vous devenir chrétien?
Non.
Bien, ben, peut-être qu'il ne vous a pas choisi. Mais n'allez pas lui reprocher parce que vous non plus, vous ne l'avez pas choisi. Mais laissez-moi vous assurer d'une chose, il n'a jamais rejeté personne. Il vous laisse le choix. Il dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et puis, je ne jetterai point celui qui vient à moi. Donc, si vous vous demandez s'il vous a choisi ou pas, il vous suffit d'accepter Christ et vous serez fixé. Vous saurez qu'il vous avait choisi. Et l'idée de son choix arbitraire ne vous gênera plus du tout. Et le non-chrétien de répondre, mais je ne veux pas accepter Christ. Alors la réponse est, c'est votre problème. Il ne vous a probablement pas choisi. Et ça s'annonce très mal pour vous. Arbitraire. Si vous prenez des notes, Ésaïe 30, 18, 45, 4, Daniel 9, 14, et la liste est longue. Encore une fois, pour comprendre peut-être mieux ce choix, c'est vrai que Dieu est en dehors du temps. Il connaît le futur comme le présent, comme le passé. Et ceux qui sont rejetés, c'est en fait peut-être ceux qui, de façon ultime, vont le rejeter. Mais c'est intéressant de voir que Dieu affirme à son peuple d'Israël un amour inconditionnel. Et nous bénéficions du même amour inconditionnel. Nous pouvons nous attendre à ce qu'il nous bénisse sans arrêt. Verset 9, « Tu reconnaîtras donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bienveillance jusqu'à la millième génération envers ceux qu'il aime et qui garde ses commandements. » Mais il rend leur dû directement à ceux qui le haïssent et il les fait périr. Il ne diffère pas, c'est-à-dire il ne tarde pas envers celui qui a de la haine pour lui. Il lui rend directement son dû. Donc, vu le commandement de détruire ce qui est contraire à Dieu, là, on voit la menace de ceux qui violent les commandements de Dieu. Il les fait périr. Il ne tarde pas. Trop souvent, on a l'impression qu'il prend trop son temps. Mais dans l'économie, dans le temps, dans l'éternité de Dieu, il ne tarde pas. Verset 11, « Tu observeras donc le commandement, les prescriptions et les ordonnances que je te donne aujourd'hui pour les mettre en pratique. » Ça, c'est le rappel de ce que nous avons vu la semaine dernière. Il ne s'agit pas de connaître, il s'agit de faire. Et verset 12 dit, « Du moment que vous écouterez ces ordonnances, que vous les garderez et les mettrez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la bienveillance qu'il a jurée à tes pères. » Alors là, vous devriez dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? On vient de parler de l'amour inconditionnel de Dieu. Mais là, il dit qu'il ne bénit que si on respecte ses conditions. Est-ce qu'il y aurait une contradiction entre cet amour inconditionnel et puis cette nécessité d'obéir ses commandements pour recevoir son amour? C'est les hasards, entre guillemets, du calendrier. Mais mercredi dernier, nous avons justement parlé de ce problème en étudiant Jude. Et je crois que c'est jeudi matin ou mercredi matin, dans les feuillets de la Bible, il y avait le même verset de Jude. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Je crois que Dieu veut me parler. Je crois que Dieu veut nous parler. Et je veux vous encourager à ne pas vous contenter d'un plein par semaine. Dire je suis chrétien, j'essaye de venir au moins une fois par semaine à l'église. Je vous invite à lire la parole chaque jour. Je vous invite à venir autant que possible aux réunions d'études, aux réunions de prière. Parce que je vous garantis que si vous êtes occupé aux choses de Dieu, Dieu va pouvoir vous parler. Si vous lui donnez que 15 minutes encore à moitié réveillé le dimanche matin, il a peut-être plus de mal à vous parler. Pensez à quelqu'un que vous ne voyez jamais. Comment est-ce que vous pouvez lui parler? Ça m'arrive des fois avec Nancy. Quand nous sommes très occupés, chacun de notre côté. Peut-être vous êtes surpris des fois qu'une nouvelle très importante n'ait pas fait le passage. Passez du temps avec Dieu. Et Jude nous disait que nous devions nous maintenir dans l'amour de Dieu. Jésus disait, demeurez dans mon amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que son amour varie? Romains 8, 35 nous dit, qui nous séparera de l'amour de Christ, la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou le dénuement ou le péril ou l'épée? Versets 38 et 39, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. Nor any other creative things shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. L'amour de Christ, l'amour de Dieu n'est jamais en question. Il est là. Mais la question, est-ce que nous sommes là? Je racontais l'illustration mercredi soir. Vous savez, aux États-Unis, tout le monde conduit des petits camions. Pour transporter des tas de choses. Et ces camions ont trois places devant. Et c'est souvent drôle quand on est derrière un de ces camions, on peut voir la relation entre les gens. Les jeunes fiancés ou mariés sont très proches vers le côté du volant, vers la gauche. Quand c'est plus loin, plus âgé, c'est souvent plus de séparation. Et justement, il y avait l'histoire de cette femme qui disait dans le camion avec son mari, « Ah, je me souviens l'époque où on était tout près l'un de l'autre. » Son mari de répondre, je suis toujours au même endroit. L'amour de Dieu est toujours au même endroit. Est-ce que nous sommes éloignés de cet amour? J'essaye de penser à des autres illustrations. On a parlé de la douche bien chaude et abondante qui tombe. Qui coule. Mais si je me mets à l'écart de cette douche, alors je n'ai plus à être aussi bien. Si j'ai un portable qui est valable que dans une certaine zone, si je m'éloigne de cette zone, je ne vais plus pouvoir bénéficier des communications. La question, vous dites peut-être maintenant, c'est bien beau, mais demeurer dans mon amour, d'accord, je vois l'image, c'est là, je peux m'éloigner. Comment rester dans son amour? Jean 15:10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jean 15:10. C'est on ne peut plus clair. Demeurer dans l'amour de Dieu, ça veut dire lui obéir. Et c'est bien parce qu'on peut se tenir à l'écart de ses commandements que nous sommes exhortés à les garder pour rester dans son amour. Dieu ne nous force jamais. Il nous laisse toujours le choix. Et comme le dit Jacques, si vous vous sentez loin de Dieu, c'est parce que vous êtes éloigné de lui. Et donc, l'amour de Dieu pour son peuple, il était toujours là. Mais il devait rester dans un endroit où Dieu pouvait les bénir, où il pouvait se réchauffer au soleil de cet amour dans l'obéissance. Et ça reste vrai pour nous. Verset 13, « Il t'aimera, il te bénira, il te multipliera, il bénira le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, ton blé, ton vin nouveau, ton huile, la reproduction de tes bovins et les portées de ton petit bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. » La promesse de porter du fruit. Jean 15 encore. Moi je suis le cep, vous les sarments, celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Verset 15, l'Éternel écartera de toi toute maladie, il ne t'infligera aucune de ces mauvaises épidémies d'Égypte qui te sont connues, mais les enverra à tous ceux qui te haïssent. Yes. No, no, I'm sorry, we are back to Deuteronomy. Right. Certains prennent ce verset pour dire que le chrétien ne doit jamais être malade. Et là encore, il faut revoir le contexte. Beaucoup des lois qui sont données dans l'Ancien Testament sont comme des règles de vie, des règles d'hygiène alimentaire, des règles de vie physique. Il y a des docteurs qui ont étudié les commandements bibliques pour voir leur fondement médical. Peut-être qu'un jour on pourrait demander à Paul de nous en parler. Mais c'est intéressant de remarquer qu'il y avait des prescriptions qui étaient hygiéniques sans qu'on ne le découvre 20 siècles, 30, 40 siècles plus tard. Il est vrai que Dieu nous veut en bonne santé. Les statistiques montrent que les chrétiens vivent plus longtemps. Parce qu'ils vivent des vies plus saines. Ils ont un espoir qui les maintient dans les difficultés. Ils ne se laissent pas devenir, ils ne deviennent pas esclaves d'addiction, de drogue, de choses dangereuses pour la santé. Et c'est vrai donc que Dieu s'intéresse à notre bien-être physique. Mais une chose importante pour comprendre la Bible, c'est que souvent dans l'Ancien Testament, il y a des images physiques de choses qui sont des vérités spirituelles dans le Nouveau Testament. Il n'est plus question de temple et du cérémonial, des prêtres lévites, etc. Il est question d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Et nous vivons dans un pays, un monde non chrétien, qui est rempli de maladies. Pas seulement les maladies physiques, mais les maladies psychologiques, les maladies psychiques, spirituelles. Il suffit de lire les médias, encore une fois, de regarder autour de nous. Dans la rue, les gens sont tristes. Les gens sont anxieux. Les comiques ont beaucoup de succès à la télévision. Mais les gens sont malades de ne pas connaître Dieu. Ça doit nous parler aussi. Nous avons à faire connaître Dieu, pas pour grandir en nombre, mais pour soigner les gens qui nous entourent, pour soigner la société qui nous entoure, pour soigner l'Ariane, L'Ariane ne va pas être soignée à coup de compagnie de CRS. On voit que ça. L'Ariane va être transformée par des personnes comme vous qui prenez une personne à la fois et lui montrez l'amour de Dieu. Pour revenir à notre verset, détruire les enfants en les fracassant sur les rochers. Là aussi, la vérité spirituelle dans le Nouveau Testament, c'est de détruire tout ce qui est dangereux pour notre âme. Le verset 16, l'ordre de détruire, tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel ton Dieu va te livrer, ton œil sera sans pitié pour eux, tu ne rendras pas de culte à leur Dieu, car ce serait un piège pour toi. Encore une fois, Dieu veut utiliser Israël comme un instrument contre ces peuples qui l'ont rejeté pendant 430 ans. Un pasteur disait, est-ce que vous connaissez beaucoup de propriétaires qui vous laisseraient ne pas payer de loyer pendant 430 ans ? Ces peuplades s'étaient complètement opposées à Dieu. Leur pratique était abominable. Dans leur culte rendu à leurs idoles, Dieu Moloch, par exemple, ils sacrifiaient leurs enfants. On a retrouvé dans des fouilles des squelettes d'enfants à l'intérieur de grandes jarres qui étaient offerts en sacrifice à leur Dieu. On raconte qu'ils avaient des statues métalliques représentant leur dieu qu'ils faisaient chauffer jusqu'à ce qu'elles deviennent rouges et blancs de chaleur. Et là, ils mettaient leur bébé dans les bras de ces statues. Dieu est juste. Nous ne le sommes pas. Un autre commandement, c'était de ne pas craindre ces peuples. Cet ordre de destruction, ça devait être une œuvre de foi. Ils ne devaient pas se laisser détourner par la pitié, on vient de le voir. Ni par la peur. Ne les crains pas, rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait au Pharaon et à toute l'Égypte. Verset 18. Souvenez-vous, verset 19, des grandes épreuves que tes yeux ont vues, de tout ce que Dieu avait accompli. Ne crains pas, mais rappelle-toi. John Corson, un pasteur que certains d'entre vous connaissent, dit en commentant ce verset que la peur ne vient généralement pas d'un manque de foi, mais plutôt d'un manque de mémoire. Est-ce que dans votre vie, lorsque vous avez peur, est-ce que c'est parce que vous oubliez ce que le Seigneur a fait pour vous? Je suis sûr que pour la famille Evans, ils pourront se rappeler pendant des années à venir ce que le Seigneur a fait pour leur permettre d'accomplir ce projet. Jésus a institué la Sainte Cène en disant « Faites ceci en mémoire de moi. » Quand je pense à son amour manifesté à la croix, ce sacrifice incroyable, comment est-ce que je peux avoir peur des hommes? L'amour parfait bannit la crainte. Et quelque part, Moïse leur dit, vous avez déjà échoué une fois parce que vous avez regardé les obstacles. Vous ne raterez pas cette fois si vous regardez à Dieu. Dieu peut même agir de façon surprenante. Il est dit au verset 20, il enverra même des frelons contre eux. Verset 21, ne sois pas effrayé à cause d'eux. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, le Dieu grand et redoutable. De qui avez-vous peur? On a tous peur de quelqu'un. On peut avoir peur des hommes. C'est un piège. On peut avoir peur de Dieu et c'est le début de la sagesse. Et quand Dieu est avec nous, pourquoi est-ce qu'on aurait peur de l'homme? Moïse termine en, ou plutôt le chapitre se termine parce que Moïse continue, en leur disant, en leur rappelant qu'ils devaient être obéissants dans cette destruction. Parce que sinon c'était un piège et à ce moment-là ce serait eux qui seraient détruits. Et donc, détruire ce qui peut nous détruire, c'est la volonté de Dieu. Ces peuplades méritaient de mourir à cause de leurs péchés. Il n'y avait pas de repentance comme à Ninive, contrairement à Ninive. Et un seul d'entre eux pouvait faire repartir le problème. C'est un peu comme la maladie de la fièvre aphteuse. On peut dire que c'est méchant pour les vaches. Mais une seule vache peut recontaminer toute l'Europe. Et je crois surtout que la grande application pour nous, c'est que Dieu veut que nous soyons radicales. Brutal. Radicaux, brutaux. Dans la façon dont nous traitons le péché dans notre vie. Sachant que si ce n'est pas nous qui tuons le péché, c'est le péché qui va nous tuer. Et que nous avons une part à jouer. Encore une fois, cette idée de détruire complètement sans pitié, c'est quelque chose qui est mal vu dans notre société laxiste. On vient de libérer, on va libérer bientôt quelqu'un qui a tué un enfant. Si la Bible était la loi, cet homme n'aurait pas vécu. C'est la société de la tolérance. On est contre la peine de mort. On est aussi contre la mort des porcs. Mais on est pour la liberté de choix et l'avortement. Ne prétendons pas être plus juste que Dieu. Si un serpent menace votre bébé qui dort, est-ce que vous allez dire, oh, il est mignon? Vous allez prendre un balai, vous allez taper sur la tête de cette serpent jusqu'à la faire éclater en charpie. Violently. Et Dieu qui nous aime tant, il a la même réaction devant le péché, devant ce qui nous attaque. Il a tout fait pour nous. Restons dans son amour. Prions. Seigneur, pardonne-nous lorsque nous prétendons te juger. Pardonne les païens qui te trouvent cruel. Nous voyons que c'est ton amour qui dirige ces actions, Seigneur. Apprends-nous à être violent avec le péché dans notre vie, Seigneur. À détruire complètement. Peut-être parmi nous, il y en a qui tolèrent quelques petits péchés. Le Seigneur nous appelle à les détruire complètement, à ne pas les tolérer. Seigneur, aide-nous à rester dans ton amour. Merci pour cet amour démontré à la croix. Et Seigneur, aide-nous à nous rappeler cet amour maintenant dans ce temps de Sainte Cène. Seigneur, tu nous as dit toi-même, Jésus, tu as dit, faites ceci en mémoire de moi. Prenons un temps de recueillement devant le Seigneur pour lui demander pardon de nos péchés, des gros comme de ceux que nous tolérons. Demandons-lui la force de couper, de détruire complètement ces péchés dans notre vie. Prenons un temps de recueillement et ensuite nous écouterons de la musique et je vous inviterai à venir quand vous le sentirez, prendre les emblèmes et les prendre vous-même. Prenez un temps de méditation sur ce que le Seigneur nous a dit ce matin. Demandez pardon à ceux que vous avez offensés. Si vous n'êtes pas encore chrétien, je vous invite à ne pas participer à la Sainte Cène. Si vous trouvez que c'est injuste, alors le Seigneur vous dit, viens à moi. Reçois-moi dans ton cœur. Et donc vous avez encore la possibilité de, ce matin, de recevoir le Seigneur dans votre cœur si vous ne l'avez jamais fait. Vous pouvez prier. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur, je reconnais que tu es mort pour recevoir la punition que méritaient mes péchés. Seigneur, je te demande de venir dans mon cœur, de m'aider à vivre pour toi, de me détourner du péché pour te suivre.